Vous écoutez
RMC. La une des grandes gueules du sport.
Sidor qui change, qui va sur le coup droit, qui lâche le coup droit, c'est gagné. C'est gagné. Yannick Sidor qui s'allonge sur le dos. Il remporte son premier grand chelem. Il met fin à une insupportable attente pour le tennis italien.
Il a improvisé.
Il a triché.
Il s'est adapté et il a dominé.
Sinner triomphe en 5 manches fantastiques. 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Medvedev qui vient le féliciter. Quelle finale, quelle finale.
Tricheur, mauvais joueur.
C'est pas correct.
Bon voilà, et ça vient, et c'est venu. Il lève les bras aussi à Yannick Sinner. Il remporte l'US Open. Soulagement, pas de joie folle comme en Australie.
Mais tu as la même gueule que les élèves de collège quand ils trichent.
Mais là, il a fait le job. 6-3, 6-4. 7-5.
C'est pas cool quoi, quand tu vois comment d'autres dossiers ont été gérés et que lui il a pu continuer à jouer, et puis d'un autre côté ils disent qu'il est blanchi mais il perd ses points à Indian Wells, c'est un peu bizarre.
En ce qui me concerne, je crois que j'ai continué à jouer au tennis parce que dans mon esprit je savais que je n'avais rien fait de mal. J'ai toujours eu l'intention d'être un joueur loyal. Évidemment, cette affaire pourrait changer certaines choses, mais ceux qui me connaissent très bien savent que je n'ai jamais fait et que je ne ferai jamais quelque chose qui va à l'encontre des règles.
Je vais désormais mettre cet épisode difficile et regrettable derrière moi. Ces mots sont signés Yannick Sinner, fin août, après le verdict rendu par le tribunal indépendant de l'ITIA. L'Italien venait en effet d'être innocenté après son double contrôle positif au Closed Table début mars. Mais finalement, cet épisode va se retrouver de nouveau devant lui. L'Agence mondiale antidopage, on en a parlé hier, a décidé de faire appel de cette décision devant le tribunal arbitral du sport et réclame 1 à 2 ans de suspension pour le numéro 1 mondial. L'AMA ne semble pas remettre en cause la thèse de la contamination par le massage de son kiné, vous vous en souvenez, mais estime que la conclusion, je cite, d'absence de faute ou de négligence n'est pas correcte au regard des règles applicables. Comprenez, même si Sinner dit vrai, il doit quand même être coupable de quelque chose. La musique qui fout les jetons. Et cette question, cette décision de l'AMA est-elle totalement justifiée? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Oui.
Fred Weiss.
Non.
Marion Bartoli.
Plutôt non.
Jérôme Pinault.
Oui.
Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste tennis, Eric Salio. Salut Eric.
Salut JC, salut à tous.
Pour quelques précisions avec toi, Yannick Sinner a donc connu ces dernières heures une deuxième déflagration dans sa carrière.
Oui, pour l'Italien, c'est une énorme contrariété. Il pensait vraiment être débarrassé de cette affaire depuis le 20 août et la décision de l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis qui avait admis une contamination, disons malheureuse, pour rentrer dans les détails après. Curieusement, l'Agence mondiale antidopage a communiqué cette information samedi, donc hier. Alors pendant que Yannick Sinner jouait son 8e de finale à Pékin, évidemment, en conférence de presse, le numéro mondial était interrogé sur le sujet.
Surprise, but...
Ouais, c'est une surprise, on va encore parler des mêmes choses. Peut-être ils veulent juste vérifier que tout est en ordre. Mais ouais, je suis surpris qu'ils fassent appel.
I'm just surprised that they appealed.
Ouais, on est donc parti pour une nouvelle bataille d'avocats avec en bout de ligne un passage devant le tribunal arbitral du sport de Lausanne, seul compétent en la matière. Et Sinner va devoir répéter comment le Closed Table s'est retrouvé dans ses urines. Revenons sur ce qu'il avait dit à l'US Open.
The thing is very simple in one way. So it
went, quand ils nous ont informé que j'avais été testé positif, la première chose que nous avons essayé de faire, c'est savoir de quelle substance il s'agissait. Mon préparateur physique, Umberto, est le gars qui connaît vraiment, vraiment bien tout ce processus. Nous lui avons donc demandé et il a tout de suite su que c'était son spray. Sachant qu'il s'agissait du spray et sachant aussi comment il s'était retrouvé dans mon système, et nous leur avons expliqué tout ce qui s'était passé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu la chance de continuer à jouer.
L'AMA réclame une peine d'au moins 1 an de suspension. Le numéro mondial va donc évoluer pendant a priori 3 mois avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il est soutenu par sa fédération, Papa Nick Kyrgios, qui lui a mis un joli taquet sur Instagram. Mais l'Italien, on le sait, a la tête solide. On se demande même comment il fait pour accumuler les victoires avec cette menace qui plane.
Merci beaucoup Eric Salio. Tu restes avec nous pour ce débat et pour ces explications ce matin. La décision de l'AMA est-elle totalement justifiée? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Je sais que Marion, tu as travaillé sur le sujet et tu vas nous apporter évidemment quelques éclairages. Commençons déjà avec un premier tour de table. Pourquoi tu dis oui, Jérôme Pinault?
Parce que l'AMA est
la référence dans la matière et que elle a des doutes, elle doit reprendre le dossier et aller au bout. C'est le pouvoir suprême, Lama. Et si elle considère que l'étude doit être approfondie et que les sanctions doivent être mises en face de l'erreur, il faut y aller maintenant. Après, ce qui est regrettable, c'est qu'il y ait tout ce parcours de c'est les uns, c'est les autres, il est suspendu, puis suspendu. À un moment donné, Lama doit y aller et prendre cette décision. Et
mais après, c'est sain pour toi. Cette décision est saine.
Non, c'est sain. Je dis pas que c'est sain parce qu'elle aurait dû prendre cette décision avant. Je prends l'égal de mon sport, Lama décide et c'est terminé quoi. T'es suspendu, il y a pas. Mais le tennis est particulier. Il y a cette ITIA là entre les deux qui essaye de s'arranger pour pas punir le grand champion et plutôt aller chercher des cas un peu moins connus pour dire qu'ils existent et qu'ils ont le besoin d'exister et qu'ils servent à quelque chose. Maintenant, si Lama décide de s'en remettre à ce qu'ils vont eux avec les biologistes et les décideurs de mettre en place une sanction envers lui après étude, je pense qu'il est mal. Parce que Lama, une fois qu'elle aura décidé, il n'y a plus de recours possible.
Ok, plutôt non pour toi, Fred Weiss.
Plutôt non, parce qu'il n'y avait pas la réponse, ça me gonfle. Donc j'ai dit non, mais ça me gonfle, j'en ai marre. Ça devient insupportable, on ne comprend rien. Moi qui suis un petit peu extérieur au tennis, en fait, un coup il peut jouer, un coup il ne peut pas jouer. Ah non, par contre, c'est un de mes sports préférés, malheureusement. Tu vois, c'est un mauvais choix. Alors, ce n'est pas le vélo que je n'aime pas du tout. mais par contre, le tennis, j'adore. Non, mais concrètement, à un moment, il peut jouer. À un moment, il est suspendu. À un moment, il peut jouer. Et finalement, Lama arrive, on ne sait pas comment, comme un cheveu sur la soupe, en disant non, mais on va quand même vérifier ce qu'a dit Lydia. Ben, donc, à quoi sert Lydia? Déjà, pourquoi Lama directement ne prend pas des décisions? Pourquoi c'est aussi tardif? Pourquoi il y a autant de rebondissements? Est-ce que franchement, ça sert le sport de se dire que finalement, même Lama ne fait pas confiance à Lydia? Donc je n'y comprends rien, c'est un flou, ça me gonfle, j'en ai marre de cette affaire et ça ne m'intéresse quasiment plus.
Ok, d'autres éléments de réponse avec Marion dans quelques instants. Christophe?
Oui, moi non plus ça ne m'intéresse plus et puis de toute manière les excuses sont toujours les mêmes, de toute façon c'est pas moi qui me suis dopé, je me suis fait doper à l'insu de mon plein gré, c'est la faute des suppléments alimentaires, c'est la faute de mon masseur, ok. Moi je suis très content en tout cas que Lama prenne les choses en main parce que cette ITIA, cette agence internationale pour l'intégrité du tennis, moi j'y crois pas, j'ai pas confiance en elle. C'est une agence qui a été montée par les gens du tennis pour juger les gens du tennis. Donc évidemment, quand t'as là le numéro 1 mondial qui fait beaucoup de bien au tennis mondial, eh ben tu peux être amené à avoir un peu plus de mansuétude pour ce garçon-là plutôt que pour un athlète venant d'une autre discipline. Donc je suis très content que Lama prenne les choses en main. Elle va regarder, elle va observer et ensuite elle jugera. Après, il faut faire attention aussi au problème de politique entre les agents. C'est-à-dire que Lama voit Lydia arriver un peu comme une concurrente et sans doute qu'elle aura envie de lui taper, taper sur la tête. Voilà. Mais de toute façon, on ne saura jamais dans l'histoire ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Si Sinner a vraiment pris ce produit pour améliorer ses performances ou s'il a été victime, comme beaucoup d'autres, d'un kidam qui est venu le doper. Et de toute façon, ça sera toujours la même chose pour toutes les affaires de dopage.
Mais par contre, il y a une mesure quand même qui est juste hallucinante par rapport au sport pratiqué et à la sanction, c'est que le tennisman dit « Moi, ce produit est arrivé par massage, on va pas refaire l'histoire. » Remets-le dans le contexte. Donc le masseur, c'est quand même un mec de son staff, on est d'accord, c'est lui qui le paye. Imagine la même chose sur un coureur cycliste qui dit « Ouais, mais c'est pas moi, c'est mon soigneur. » Il est mort le mec.
D'ailleurs, ça a déjà été utilisé.
Et puis on parle. Les résultats sont infimes. Hein,
et alors, Contador, il y avait combien?
C'est la même chose.
Ok, Marion Bartoli, sur ce dossier justement, dans le monde du tennis, ça a été encore une déflagration hier.
Alors, j'ai essayé de reprendre les faits un par un et je vous assure que j'ai beaucoup bossé, c'est extrêmement compliqué. Bon, d'abord, la fameuse ITIA a pondu quand même un rapport de 33 pages. J'y sais, je te l'ai envoyé dans notre groupe WhatsApp. En fait, ils ont fait plusieurs choses. Ils ont d'abord retracé tous les faits. Donc, ils ont retracé le nom exact du produit précis acheté dans quelle pharmacie, à quel endroit, à quelle date par le fameux... coach, entraîneur physique Umberto Ferrara, pour traiter la plaie ensuite du kiné qui a massé Yannick Sinner. Ensuite, ils ont mis toutes les jurisprudences, avec les quatre jurisprudences dans tous les sports qui pourraient être à peu près équivalents à ceux d'Yannick Sinner. J'ai essayé de lire vraiment, mais ligne par ligne, c'est quasiment à ne rien n'y comprendre. C'est-à-dire qu'une fois, ils disent une chose, une fois, tu es à peu près dans le même cas, mais ils disent l'opposé. Donc, c'est très difficile d'arriver à se faire un avis. Ce qui est de manière certaine, aujourd'hui, dans les faits qu'on a actuellement sous les yeux. L'ITIA a mandaté 3 experts qui sont reconnus par l'AMA pour pouvoir l'aider dans le jugement du cas de Sinner, qui a obtenu effectivement le fait qu'il pouvait continuer à jouer juste avant le début de l'US Open. Et on a le directeur du laboratoire de Montréal, qui s'appelle Jean-François Naud, on a le directeur du laboratoire de Rome et un ancien directeur du laboratoire de Londres. Ces 3 experts ont été mandatés par l'ITIA, sont reconnus par l'AMA pour pouvoir avoir jugé le cas juste avant l'US Open, avec le résultat qu'on connaît. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'AMA remet en cause ? En fait, l'AMA remet en cause le principe fondamental qui effectivement est dicté dans toutes les règles d'antidopage et documents que vous devez signer avant que vous commenciez votre année en tennis, c'est-à-dire que vous devez être responsable, quel que soit le degré de responsabilité, de tout ce qui arrive dans votre corps. Donc même si, entre guillemets, ça vous est quasiment impossible de savoir s'il y a un membre de votre staff qui a mis une crème ou un spray qui contient un produit dopant, etc., vous êtes responsable dans votre entièreté de ce qui arrive dans votre corps. Et donc, quoi qu'il arrive, ça vous retombera dessus.
Mais donc, il n'y a pas besoin de jugement, parce que c'est le cas. Alors, attends, c'est exactement
attends,
ce qui s'est passé.
Alors, c'est là où ça devient compliqué. C'est là où c'est très compliqué. Le problème du Clostebol, c'est que dans la liste des produits dopants, comme c'est considéré comme un produit que l'organisme humain ne produit pas, donc n'est pas capable de, on n'a pas d'étau, on va dire, qui vont différer d'une personne à une autre en fonction de sa génétique, il n'y a aucune notion de seuil qui rentre en compte. Et c'est là où je veux en venir, c'est que le seuil détecté dans les urines de Yannick Sinner avec ses contrôles positifs au mois de mars était de 0 points. Il y a 8 zéros et ensuite il y a 1. D'accord, donc c'est effectivement une quantité qui devient totalement négligeable. Mais comme il n'y a pas dans ce produit-là de notion de seuil, quelle que soit la quantité détectée, qu'elle soit 1000 fois plus importante ou extrêmement infime,
c'est considéré comme positif.
C'est considéré comme positif. Et c'est là où la nébuleuse commence à rentrer en compte. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à me faire un avis. C'est que effectivement, dans les règles pures et dures, on vous dit que vous devez absolument maîtriser tout ce qui arrive. Mais comment est-ce possible pour un joueur? Alors, le fameux produit s'appelle du trofodermin, okay, qui a été acheté par le fameux préparateur physique à Bologne en Italie pour éventuellement soigner une plaie personnelle. Finalement, c'est le kiné qui se fait cette plaie, il lui met le produit. Et donc, comme Yannick Sinner a du psoriasis, avec le contact sur la peau, avec le massage, ça finit par arriver dans son organisme à des quantités qui sont totalement infimes et ridicules. Est-ce que ça vaut 1 ou 2 ans de suspension?
Est-ce que ça, c'est la vraie version? C'est ça le truc.
Et ça, c'est toute la question, sauf que l'AMA remet pas.
L'AMA ne remet pas en cause.
La thèse de Sinner.
Non, mais l'AMA, elle dit quoi? Elle va juger une chose. Un produit qui n'est pas produit par l'organisme s'est retrouvé dans son corps. Qu'il soit pris par l'athlète lui-même, qu'il vienne d'une personne de son staff, ce produit n'avait rien à faire dans son organisme. Est-ce qu'on suspend, oui ou non? Évidemment, à partir du moment où dans le sport, on va pas prendre une loi très simple. T'as un produit dans le corps qui est interdit, qui peut laisser supposer.
Pas dans des quantités comme ça et d'accord. Pas sur donc, la manière dont c'est que, contaminé.
Donc tu vois, Alberto Contador avec le clambutérol à 0,0,0,0, c'était qu'il avait mangé un steak. T'y crois encore, toi? Après tout ce qu'on a su dans le vélo, et qui te dit que c'est pas une transfusion sanguine et qu'il y avait des traces de ce produit-là. Il est là le problème.
Ouais, mais le sujet n'est pas là.
Franchement, sur Sinner,
t'as beaucoup de mal, mais sur les autres, dans d'autres disciplines, t'as moins de mal. C'est un peu le problème.
Je reprends la main et vous pouvez continuer d'en parler dans quelques instants. On continue de débattre sur Yannick Sinner. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h34 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Fred Weiss, Jérôme Pinault. Un instant, restons sur le cas Yannick Sinner avec cette décision de l'AMA qui a demandé une suspension pour le numéro 1 mondial d'un à 2 ans. Et forcément, cette décision nous interpelle. Est-elle totalement justifiée? C'est notre débat dans quelques instants. On vous attend, chers auditeurs, au 32-16. Je rappelle évidemment que l'AMA, et on l'a dit précédemment, que l'AMA ne remet pas forcément en cause la version de Sinner. D'ailleurs, une version qui a été estimée tout à fait plausible par trois experts scientifiques reconnus par l'AMA. Oui. Mais ce qui gêne l'AMA, évidemment, c'est que, eh bien, même si c'est à son corps défendant, sans mauvais jeu de mots, malheureusement, eh bien, il doit quand même y avoir une sanction. En tout cas, c'est ce que demande l'AMA. Cette décision, comme d'ailleurs la décision quand ce tollé a eu lieu, Eric Salio, sur cette affaire de dopage qui a été révélée, Yannick Sinner a été prévenu un petit peu en amont. Nous, on l'a appris hier matin, mais lui était prévenu.
Oui, non,
il
a. Ses avocats ont reçu l'information jeudi. Non, mais je voudrais poser une question à Marion. Imagine, tu te retrouves dans le cas de Sinner, tu découvres que tu es prise positive, tu fais le fil de l'affaire et tu découvres que c'est ton kiné donc, qui, effectivement, a commis une boulette. Qu'est-ce que tu fais? Tu le vires tout de suite? Parce que ce qui est curieux, c'est que Sinner, il a gardé son staff jusqu'à Roland-Garros.
Tant que l'affaire n'avait pas été révélée.
Absolument. Moi, ça m'interpelle.
Alors que lui, il savait.
Bien sûr, il savait.
Donc, il a gardé le même. Mais ça, je suis d'accord avec lui. C'est plutôt à charge contre lui.
Je comprends pas.
Bah, tu poses la question.
Est-ce qu'il savait aussi que ça venait
Mais oui, puisqu'ils ont fait appel le 3 avril. Le 3 avril, il est suspendu. Un jour, contre-appel. Parce que les avocats avaient déjà bossé sur le dossier. Et deuxième suspension le 16 et le 17 avril, ils font de nouveau appel. Donc ils avaient le même argumentaire. Et il a gardé le même staff. Je ne comprends pas.
Bah Marion, est-ce que ça t'interpelle ça ?
C'est une faute professionnelle.
C'est très compliqué parce que Sinner, moi pour l'avoir interviewé à de très nombreuses reprises, que ça soit à Roland-Garros ou que ça soit à l'US Open... c'est pas quelqu'un qui est agressif, c'est pas quelqu'un qui prend des décisions en mettant la faute sur les autres, c'est quelqu'un qui est plutôt extrêmement réfléchi, extrêmement posé. Après, il a fini par effectivement évincer ces deux personnes de son staff, mais je pense qu'au départ, comme en plus ils ont été avec lui pendant extrêmement longtemps, qu'ils l'ont amené jusqu'à ce niveau-là, qu'il y ait une micro-faute commise de cette façon-ci, qui a encore une fois été reconnue, puisque le taux trop trouvé dans ces analyses urinaires sont de 121 picogrammes par millilitre. Donc c'est 1 puissance 12. Donc on est effectivement dans des dosages qui sont infinitésimales. Donc de se dire qu'on va remettre toutes des années de travail ensemble avec une proximité qui s'est créée, un lien de confiance. Pour
ça,
il y a faute, mais je pense qu'il a voulu...
Et finalement, ils s'en séparent quand même. C'est cette partie-là qui est quand même nébuleuse. Tu ne peux pas comprendre que lui le sait. Il fait son argumentaire sur ça en expliquant j'ai été contaminé, oui, mais par mon masseur, etc. Et après, il se dit je vais le garder jusqu'à un certain temps.
Alors qu'il le sait. Jusqu'à ce que ça sache.
Et à partir du moment où ça se sait, ben là, je m'en sépare. Bah oui, c'est quand même ultra nébuleux, Marion. Tu ne peux pas dire autre chose.
Il s'en est séparé parce qu'il a eu aussi des problèmes de blessure avec une blessure récurrente à la hanche et que peut-être qu'il a considéré qu'à un moment donné.
Au moment où l'histoire, elle sort. C'est quand même un peu gros, l'histoire.
Il avait des blessures à la hanche au niveau de Madrid où il n'arrive même plus, il boitait sur le terrain, même à Roland-Garros,
oui, à un moment donné, il boitait sur le terrain. Il a été obligé de s'en séparer. À partir du moment où c'est révélé dans la presse, il ne peut plus faire autrement, quelque part.
Oui, à ce moment-là, exactement. Mais je pense qu'il a essayé au maximum déjà de préserver ces gens-là et puis de ne pas prendre des décisions à l'emporte-pièce.
Mais il savait que ça allait sortir dans la presse. C'était une évidence que ça allait sortir dans la presse. Donc, en fait, l'image que ça donne, Marion, c'est pour me protéger, je l'ai vu à ce moment-là parce que le
fait que ça sorte. Non.
Mais c'est pas possible que ça ne sorte pas.
Non, pas pour ce.
C'est possible.
C'est le tennis, attention.
Ah ben, si ça ne sort pas, c'est encore pire.
C'est obligatoire, c'était obligatoire que cette affaire sorte, de toute façon. Pour moi, ce qui est certain, c'est que pour l'avoir eu, mais à vraiment quelques centimètres de moi, quand je l'interviewais sur Sky Sport à l'US Open après ses victoires, pour l'avoir vu de la manière dont il a fonctionné sur Cincinnati, sur l'US Open, pour l'avoir vu sur sa semaine qui a précédé l'US Open, où il y a eu des interviews vraiment poussées en one-to-one avec des grosses chaînes américaines. Je ne vois pas quelqu'un qui a commis une faute. Alors après, ça reste que mon jugement personnel.
Je vous donne mon avis. Elle a été pendant des années à dire. Allez-y, venez mon contrôle.
Est-ce que tu as déjà vu un athlète pris contre l'antidopage dire oui, mais à coup pas, mais à maxima coup pas, je me suis dopé. Dans toute l'histoire du dopage, il y a toujours eu la même défense.
Ne comparez pas. ne compare pas un tennisman institutionnel du vélo,
ne compare pas un
institutionnel du vélo avec
non mais oui évidemment.
Non mais vous allez comparer un dopage institutionnel dans le vélo pendant des années avec un cas qui est là complètement isolé,
qui n'ont jamais été touchés par le dopage.
On fait pas le procès, on fait pas le procès d'un sport.
Tu viens de faire le procès du vélo en général en disant que le dopage était institutionnalisé dans le vélo et en disant qu'en tennis tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais arrêtez, c'est pas possible d'entendre ce genre de truc.
Tu vas pas me dire qu'à un moment donné dans le peloton du vélo il n'y avait pas un dopage institutionnel. Écoute, arrête Christophe quand même.
Mais on sait très bien, on sait tous. Aujourd'hui. Non, mais
donc voilà, pour l'instant,
Marion,
dans le tennis...
Marion, je restitue le débat.
Dans le tennis, tout va bien.
Non, mais c'est pas ça que Marion dit. Je prends pas sa défense, mais j'ai juste que, malheureusement, le vélo a été éclaboussé par ce genre d'affaires, et donc ça colle à la peau comme un sparadrap qu'on n'arrive pas
tennis,
à enlever.
Mais le tennis aussi, mec. Le tennis, moi, aujourd'hui, je vais aller voir un match de Sinner. Il n'est pas crédible à mes yeux. Et il y a beaucoup de cas dans le tennis qui
apparaissent. Ça, c'est un jugement, et ça, il t'appartient. Ce que je veux dire, c'est que
le tennis
ou pas, ça vous avez certainement raison, il faut se poser les bonnes questions.
Moi je suis
juste que le tennis, on a déjà posé la question, pas de la même réputation, c'est ça.
Exactement.
Oui, bah oui, parce qu'il a toujours su se protéger et blanchir,
mais évidemment
ne peut pas le faire.
Exactement,
évidemment. J'ai posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on a le droit aux AUT? A priori on a le droit de faire une AUT dans le tennis aussi.
C'est quoi l'AUT?
C'est une autorisation.
C'est une ordonnance thérapeutique.
Okay. C'est-à-dire que le mec qui veut bricoler, il fait ça, et comme ça, il a le droit de le faire, mais il l'a dit. Tu vois, c'est un peu ça, quand même. On ne va pas se le cacher.
Non, mais encore une fois, je ne veux pas te laisser dire des trucs pareils. Okay. Les ordonnances thérapeutiques aujourd'hui dans le tennis, vous faites un truc complètement extrême et réducteur, comme si entre guillemets tous les joueurs de tennis étaient en train de gauler pour essayer de se doper.
Et toi, tu ne crois pas que c'est un truc réducteur en disant que le vélo est un institutionnalisé? Tu prends exactement la même méthode, Marion, donc arrête.
Non mais tu vas pas quand même pas comparer le dopage dans les institutions par rapport à une ordonnance thérapeutique. Mais non mais s'il te plaît, une ordonnance thérapeutique, il faut quand même employer les mots tels qu'ils sont. Une ordonnance thérapeutique, il faut avoir le jugement de plusieurs médecins qui sont complètement indépendants, prouver que vous avez une maladie réelle qui vous autorise à avoir une ordonnance thérapeutique sur une période qui doit être restreinte et qui est dans une période qui est extrêmement précise. Et si celle-ci doit être renouvelée pour des raisons médicales qui sont importantes, à ce moment-là, elle doit être encore une fois repassée devant un panel d'experts. Donc on peut pas dire que vous faites une TUE comme ça, alors porte-pièce et que vous allez à la pharmacie, vous achetez ce que vous voulez. Il faut quand même arrêter d'avoir des raisonnements si réducteurs, je suis désolée. On ne peut pas dire ça à l'antenne en expliquant aux gens que vous faites des TUE comme vous voulez, vous allez vous doper en allant acheter ce que vous voulez à la pharmacie. Il ne faut quand même pas exagérer non plus.
Mais ce qui est sûr, c'est que cette, et tu l'as dit et tu l'as rappelé, Eric, cette histoire jette un trouble et forcément l'image du tennis est détériorée à cause de cette histoire. Il peut continuer de jouer, hein, Eric Salio, il faut le rappeler, hein, pendant cet appel, ouais, en tout cas cette demande de la
presse. Ces résultats obtenus ne seront pas remis en question. Donc, son titre à Miami, son titre à Cincinnati, son titre à l'US Open ne seront pas remis en question.
Ça fait partie de la nébuleuse qu'on ne comprend pas comment on peut ne pas remettre en cause des titres alors qu'ils devraient être suspendus.
Je t'explique. Parce qu'en fait, le problème, c'est que Lama est à cheval sur sa fameuse règle de pas de faute, pas de négligence, et que pour eux, dans leur manière dont ils ont créé leurs règles, quelle que soit la manière dont le produit est arrivé dans ton corps, tu es responsable. Voilà là, sur quoi ils attaquent.
Bah, c'est
non mais le TAS tranchera, voilà.
Le TAS tranchera.
Mais pour l'instant il peut jouer.
Il a des échéances importantes, on le verra à Bercy. Il jouera le Masters.
Et peut-être l'Open d'Australie avec toujours cette épée de Damoclès.
Peut-être l'Open d'Australie.
De toute façon c'est le TAS qui donnera son dernier jugement.
Ok, c'était très clair. Évidemment toutes les dernières informations à retrouver sur rmcsport.fr. Merci beaucoup Eric Salio d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, t'es bien remonté comme ça, tu peux passer un bon dimanche.
Faire un petit tennis, tiens.
Exactement.
Si tu veux une AUT, tu me
n'oublie pas ton AUT, ouais.
Ouais, je suis fatigué comme les cyclistes.
Et n'oublie pas ton masseur, évidemment.